France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une nouvelle alerte terroriste ce matin près de Grenoble. Un homme fonce avec sa voiture sur des militaires qui faisaient leur footing à proximité d'une caserne à Varsalières et Risset. Dans l'Isère, il n'y a pas de blessés. Nous irons sur place avec Léopold Stragic. Près d'une semaine après les attentats de l'Aude, les derniers hommages, les obsèques des quatre personnes tuées à Trèbes et donc à Carcassonne ont eu lieu ce matin en présence du Premier ministre Édouard Philippe et des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ne pas rater le train de l'intelligence artificielle, objectif affiché par le chef de l'État qui présente aujourd'hui son plan pour développer donc cette technologie, un programme qui s'inspire du rapport Villani commandé donc en septembre aux mathématiciens et députés La République En Marche. Nous l'entendrons ainsi que l'analyse de Boris Loumagne. Qui, pour reprendre à nouveau le volailler en difficulté, d'où sont en lice pour cette reprise au moins partielle le groupe français qui possède les poulets loués et un groupe agro-industriel ukrainien. Précision et dossier suivi par Anne-Laure Chouin. La prix Nobel de la paix et militante des droits des femmes, la pakistanaise Malala Yousafzai, de retour au pays qu'elle avait quitté il y a 6 ans maintenant après avoir reçu une balle dans la tête de la part de talibans pakistanais. Précision de Marie-Pierre Véraud sur ce retour. Et puis l'invité de la séquence interview, Sophie Delpont reçoit Michel Barnier qui est le négociateur du Brexit pour l'Union Européenne dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Gesbert.
Une petite philosophie des GAFA, à quoi ressemble le monde que les géants du numérique sont en train de nous façonner, de quelle philosophie, idéologie se sont-ils inspirés? On en parle avec notre invité Ariel Kirou qui est avec nous depuis midi et qui sera rejoint dans la deuxième partie de l'émission par Raphaël Glucksmann puisque ce sujet est à la une du nouveau magazine littéraire dont il est le directeur de la rédaction.
C'est donc une nouvelle alerte ce matin, alerte terroriste près de Grenoble. En début de matinée, un homme fonce avec sa voiture sur des militaires qui faisaient donc leur entraînement à proximité d'une caserne. Ça se passe à Vars, Allières et Risset, c'est dans l'Isère. Il a tenté de renverser donc ces militaires qui appartiennent à la 27e brigade d'infanterie de montagne, clairement identifiable d'ailleurs comme militaire, avant d'en insulter d'autres, puis de prendre la fuite, donc toujours en voiture. Les militaires réussissent à remonter sur le trottoir sans être écrasés. Les enfants des écoles sont toujours confinés. On retrouve Léopold Stragic pour plus de précision.
Peu après 8 heures ce matin, 4 militaires partent faire leur footing aux abords de la caserne. Ils croisent une voiture, l'automobiliste les insulte. Une demi-heure plus tard, ce même groupe croise à nouveau cette voiture, mais cette fois, le véhicule leur fonce délibérément dessus. Par chance, les militaires parviennent à l'éviter, il n'y a pas de blessés. Aussitôt, l'alerte est donnée, d'autant que vers 8h15, un autre groupe de joggeurs, militaires également, a essuyé des insultes de la part du même individu. La police judiciaire chargée de l'enquête dispose d'un signalement précis de l'auteur des faits, toujours en fuite mais activement recherché. Le maire de la commune de Vars a décidé de confiner les enfants dans les écoles, les crèches et le collège jusqu'à nouvel ordre. À ce stade de l'enquête, on ne connaît pas les motivations du fugitif. Tentative d'attentat, acte de vengeance ou différents d'ordre privé. C'est en tout cas pour le moment sous l'autorité du parquet de Grenoble et non du parquet antiterroriste que l'enquête a été ouverte.
Léopold Stragic, merci. Et puis les derniers hommages, les obsèques des quatre personnes tuées à Trèbes et à Carcassonne ont eu lieu ce matin en présence d'Édouard Philippe et de deux ministres, ceux de l'Intérieur Gérard Collomb et de la Justice Nicole Belloubet, donc, qui assistait à ces cérémonies de Trèbes. Ne pas rater le train de l'intelligence artificielle, c'est avec cette préoccupation que le chef de l'État présente tout à l'heure un plan pour développer cette nouvelle technologie. Parmi les objectifs affichés, il s'agit d'attirer les meilleurs chercheurs dans le domaine, créer un centre français de niveau international, développer une politique des données aussi, faire émerger des champions français comme on dit, et aussi engager une réflexion sur l'éthique et la régulation de ces innovations. Le programme s'inspire assez largement du rapport commandé en septembre au mathématicien et député de La République En Marche, Cédric Villani, qui a piloté donc plus de 300 auditions auprès d'experts du monde entier et qui résume un petit peu son rapport ce matin sur France Info.
L'intelligence artificielle, c'est une technologie universelle qui vient chaque fois qu'on cherche une réponse algorithmique plus intelligente, plus perfectionnée. Et donc, elle va s'inviter partout. Mais elle va s'inviter à chaque fois en résonance, en interaction avec l'application que l'on souhaite faire. Si on veut de l'intelligence artificielle pour les transports, il faudra une coopération forte avec les acteurs du transport. Si on veut la faire dans le domaine du droit, il faudra une coopération forte avec les avocats ou les experts en droit de façon générale. Et donc, à chaque fois, quand on a des forces industrielles économiques à mettre en œuvre, il faut les mettre en regard avec la valeur ajoutée que l'intelligence artificielle peut apporter. Et c'est pourquoi nous avons identifié 4 secteurs économiques prioritaires dans lesquels nous recommandons que l'action de la France se fasse. Santé, transport, défense, environnement. On n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner tous les autres, mais que les autres doivent s'envisager dans une optique plus expérimentale. Par exemple, éducation, secteur clé. On ne sait pas encore quelles sont les bonnes techniques d'IA qui marchent en éducation et ça demande beaucoup plus d'expérimentation.
Voilà les priorités de Cédric Villani qui sont donc en partie sans doute reprises tout à l'heure par le chef de l'État, Boris Loumaigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous donnez donc les principaux points maintenant de ce rapport.
Alors Cédric Villani a procédé à plus de 300 auditions auprès d'experts du monde entier. Voici donc ses conclusions. Le rapport se concentre sur 4 grands objectifs. Le premier consiste à faire de la France l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle. Comment ? En endiguant la fuite des cerveaux attirés notamment par les géants américains. Selon le rapport, il faudrait tripler le nombre de personnes formées. Cela peut se faire en multipliant les bourses ou encore en doublant les salaires en début de carrière. Mais pour être plus performants, les chercheurs doivent également bénéficier de meilleurs outils. Un super calculateur pourrait être mis à leur disposition. Autre axe prioritaire, le partage des données. En somme, il s'agit de favoriser l'accès, le partage et la circulation des données pertinentes pour la recherche et l'innovation, le tout à une échelle européenne. Parmi les conclusions du rapport, il y a aussi la volonté de concentrer l'investissement sur 4 domaines, on l'a entendu, les transports, l'environnement, la défense et la santé. Dans ce domaine de la santé, Emmanuel Macron a d'ailleurs visité ce matin l'Institut Curie, un institut en pointe dans les nouvelles technologies de dépistage des cancers. Et puis, la dernière grande préconisation du rapport, elle concerne le volet éthique. Voilà pourquoi Cédric Villani veut créer une instance indépendante. Rappelons que seuls 44% des salariés sont prêts à travailler avec l'intelligence artificielle, selon un sondage paru hier. Beaucoup craignent des atteintes à la vie privée, partage des données oblige. Et puis, il y a la peur de voir les machines intelligentes remplacer les employés, Antoine.
Boris Loumaigne, merci bien. Dans ce contexte, l'Élysée annonçait hier que le géant sud-coréen Samsung Electronics allait implanter un laboratoire dédié à la recherche en intelligence artificielle en France. Après les violences de vendredi dernier à la faculté de droit de Montpellier, perpétrées par des hommes cagoulés et armés de bâtons qui ont brutalement chassé des étudiants d'un amphithéâtre occupé dans le cadre du mouvement contre la loi Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur annonce ce matin la suspension à la fois du doyen de la fac et d'un professeur au vu des premières conclusions de l'enquête administrative qui a été ouverte lundi. Et il faut signaler que les deux professeurs avaient été placés hier en garde à vue. La ministre s'explique, Frédéric Vidal, ce matin invité de France Info.
L'émotion a été vraiment extrêmement forte et je le comprends. Et cette émotion a été forte dans toute la communauté, que ce soit chez les étudiants comme dans le corps professoral. Et je crois que ce temps de l'émotion est justifié parce que vraiment ce qui s'est passé est totalement injustifiable. Donc une fois de plus, j'en appelle vraiment à l'apaisement et je rappelle qu'il y a 2 lignes rouges à ne pas franchir. Pas de violence dans les établissements, et c'est extrêmement important. Ce sont des lieux où on doit apprendre à débattre avec des arguments et pas à débattre avec de la violence. Et puis, faire en sorte que l'année universitaire se termine et que les examens aient lieu dans les meilleures conditions.
La ministre de l'Enseignement supérieur, donc, sur France Info ce matin. Qui pour reprendre à nouveau le volailler en difficulté doux, malgré une première reprise, c'était en mars 2016, par le deuxième groupe coopératif français Terrena. Les déboires de doux se sont accumulés encore depuis lors, en raison de la concurrence internationale notamment. Le groupe perd en tout cas plus de 35 millions d'euros par an. Sont en lice donc pour cette reprise, au moins partielle, un groupe français qui possède les poulets de Loué et un autre groupe agro-industriel ukrainien, Anne Lorchouin.
Oui, 2 repreneurs potentiels et une proposition, celle du groupe français LDC, qui a clairement les faveurs des acteurs de la filière. Il faut dire que le groupe ukrainien, qui était jusqu'à présent seul sur les rangs, faisait peur. En Ukraine, MHD contrôle une grande partie du marché alimentaire, avec à sa tête un milliardaire proche du pouvoir, par ailleurs expert en contournement des droits de douane, rien de très rassurant. LDC, propriétaire, vous l'avez dit, des poulets de Loué notamment, propose désormais de reprendre doux grâce à un consortium constitué évacués de l'actuel propriétaire de Doula, la coopérative Terena, de son principal client, le groupe saoudien Al-Munajjem, et d'une autre société française de volailles. Le tout permettrait de conserver 920 emplois sur 1187 après des reclassements et des investissements, notamment dans un nouvel abattoir à Châteaulin pour un total de 60 millions d'euros, quand MHD, le groupe ukrainien, en propose lui 76. Sur le papier, les deux offres de reprise affichent les mêmes ambitions, retrouver de la compétitivité à l'export et de la valeur ajoutée pour le marché français. Il faut dire que Doux avait basé une bonne partie de sa stratégie sur le tout export, une stratégie gagnante tant que les aides européennes à l'exportation existaient. Elle n'existe plus. Par ailleurs, les épidémies de grippe aviaire, la concurrence brésilienne à l'export et la concurrence allemande et polonaise sur le marché français ont fini d'invalider cette stratégie. Le groupe, vous l'avez dit, perd désormais 3 millions d'euros par mois. Pour l'instant, les deux candidats à la reprise disent souhaiter continuer d'exporter la volaille française. Or, dans ce contexte de concurrence acharnée pour un produit dont la transformation coûte bien moins cher partout ailleurs qu'en France, peut-être faudrait-il, comme on dit souvent, monter en gamme. Pour l'instant, rien n'est très précis à ce niveau dans les deux projets.
Anne Lorchois. 12h42, l'actualité à l'étranger, on connaît maintenant la date du prochain sommet intercoréen. Ce sera le 27 avril prochain, sommet entre les dirigeants donc nord et sud-coréens, qui n'est que le troisième du genre et qui doit précéder la rencontre attendue avec le président américain Donald Trump. Ce sera au mois de mai. En Égypte, sans surprise, le sortant Abdel Fattah al-Sissi remporte l'élection présidentielle avec un peu plus de 90% des voix, donc pour cette présidentielle, avec un taux de participation tout de même inférieur à 50%. La prix Nobel de la paix et militante des droits de l'homme, la pakistanaise Malala Yousafzai, de retour dans son pays hier, un pays qu'elle avait quitté dans des circonstances, on s'en souvient, dramatiques. C'était en 2012. Elle avait reçu une balle dans la tête de talibans pakistanais. Discours prononcé tout à l'heure à la résidence du Premier ministre à Islamabad. Elle affirme réaliser un rêve et le Premier ministre lui répond que le monde lui a accordé beaucoup de respect et qu'elle reçoit ici un respect total également. Que dit finalement cet accueil de la situation au Pakistan, Marie-Pierre Béraud ?
Bien, les circonstances dans lesquelles Malala Yousafzai réalise ce rêve témoignent de l'ambivalence qui prévaut au Pakistan. Célébrée par les autorités politiques, saluée par plusieurs voix sur Twitter, sa venue avait été secrète. Elle se déroule sous très haute sécurité. Son parcours durant les 4 jours qu'elle va passer au Pakistan n'est pas connu. Et plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix à ce jour, Malala Yousafzai ne pourrait revenir vivre tranquillement dans son pays si elle le désirait. Certes, la situation sécuritaire s'est améliorée ces dernières années. Le nombre d'attaques lancées par les extrémistes s'est fortement réduit. Mais les talibans continuent à cibler les écoles et collèges notamment. La société pakistanaise, elle, n'est pas aussi unanime que l'Occident pour célébrer la jeune fille et son combat pour l'éducation. Accusée par les plus extrémistes d'être un agent de l'Occident, voire un agent américain, et de promouvoir la culture occidentale, elle se voit aussi reprochée par une partie de la classe moyenne de ternir l'image du Pakistan à l'étranger. Mais Malala Yousafzai ne dévie pas de son chemin. Au début du mois, dans son district de Swat, dans le nord-ouest du pays, là où les talibans avaient failli la tuer, une nouvelle école pour filles a ouvert ses portes, financée grâce à l'argent de sa fondation. Son prix Nobel lui avait été utilisé pour reconstruire une école à Gaza. Il y a quelques mois, la jeune femme célébrait son 20e anniversaire dans le Kurdistan irakien auprès de familles yézidis ayant survécu à l'État islamique. Malala Yousafzai est aujourd'hui étudiante à Oxford. Elle revient donc quelques jours au Pakistan, alors que selon elle, la volonté de changement est forte dans le pays. C'est l'occasion peut-être d'accompagner ce changement, voire de lui apporter son soutien. Mais icône mondiale, Malala Yousafzai a toutefois encore de quoi faire pour convaincre le pays des purs du bien fondé de son engagement.
Merci Marie-Pierre Véraud. Dans le nord du Venezuela, 68 personnes qui meurent dans un incendie dans le commissariat principal de la ville de Valence. La surpopulation dans les prisons du Venezuela oblige les forces de l'ordre à utiliser les commissariats comme lieu de détention de longue durée, alors que selon la loi, la détention ne peut excéder 48 heures dans ses locaux. La psychanalyste Julia Kristeva, qui dément ce matin avoir collaboré avec les services secrets bulgares sous l'ère communiste, une commission d'État l'accuse en Bulgarie d'avoir collaboré donc avec ses services de renseignement, les services renseignements de son pays natal. En 1971, sous le nom de code de Sabrina, elle aurait travaillé alors pour le premier département de l'agence de sûreté de l'État, chargé de collecter des renseignements dans les médias et dans les milieux artistiques. Julia Kristeva estime que cette allégation est non seulement grotesque et fausse, mais qu'elle constitue une atteinte à son honneur et à sa considération, et elle porte aussi préjudice à son travail. Fin de citation. Nous sommes un an, jour pour jour, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et l'invité de la séquence interview, c'est le Michel Barnier, qui est le négociateur du Brexit pour l'Union européenne. Il est interrogé par Sophie Delpont.
Oui, Michel Barnier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Culture. Alors tout d'abord, vous qui êtes le négociateur en chef de la Commission européenne, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de votre travail et donc ce que vous faites depuis que vous êtes en charge de cette mission ?
Nous sommes exactement au milieu du chemin, entre le moment où la lettre de Theresa May nous est parvenue, c'était il y a un an, déclenchant le processus de négociation, et le moment effectif, deux ans après, en mars 2019, le 29 mars prochain, dans un an, à minuit, où le Royaume-Uni deviendra, comme il l'a souhaité, un pays tiers, sera sorti des institutions européennes, même si, comme l'accord en a été donné il y a quelques jours, pendant une période limitée, au-delà de cette date, entre mars 2019 et le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni restera dans le marché unique, dans l'union douanière européenne, bénéficiera de toutes les politiques et respectera, en payant d'ailleurs ce qu'il doit, tous les engagements de l'Union européenne pour ses politiques, notamment la politique agricole ou la politique de la pêche. Donc voilà, nous sommes dans une négociation extraordinaire, extraordinairement complexe aussi, dans laquelle beaucoup de personnes sont inquiètes, angoissées. Je pense notamment à ce qui est notre priorité, c'est 4,5 millions de personnes, 3,5 millions d'Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni aujourd'hui, 1,5 million de Britanniques qui vivent ou travaillent, beaucoup de retraités aussi, dans l'un des 27 pays de l'Union Européenne dont nous voulons sécuriser les droits. Beaucoup d'inquiétudes parmi les bénéficiaires des programmes européens, les budgets, mais là nous avons également obtenu un accord de principe du Royaume-Uni. Donc nous continuons ce travail pour détricoter, je le dis malheureusement parce que je fais partie de ceux qui ont regretté cette décision britannique, mais nous la respectons, nous la mettons en œuvre, nous devons détricoter 44 années d'intégration.
À combien évaluez-vous aujourd'hui le prix du Brexit pour Londres, en l'état actuel des négociations ?
Non, mais il y a le prix économique, le fait de devenir solitaire plutôt que de rester solidaire dans l'Union européenne. Je ne peux pas calculer ce prix. Il y a des conséquences économiques considérables qui dépendront évidemment de la nature de notre relation future. Est-ce que nous parlerons simplement, comme c'est probable aujourd'hui, d'un accord de libre-échange avec un abaissement des barrières douanières et tarifaires, ou est-ce qu'il y aura, avec cet accord de libre-échange, d'autres formes de coopération? Pour l'instant, nos propres exigences, parce que nous ne voulons pas changer ce que nous sommes, il n'y a pas de raison de détricoter ou d'affaiblir le marché unique, et compte tenu des lignes rouges britanniques, je vous rappelle que les Britanniques ont décidé avec le référendum de sortir de l'Union, de ne plus respecter la liberté de circulation, qui est une des libertés indivisibles dans le marché unique, avec les autres libertés de circulation des biens, des services et des capitaux. Ils ne veulent plus reconnaître le rôle de la Cour de justice. Ils ne veulent plus de politique européenne commerciale. Donc quand vous additionnez toutes ces règles rouges ou ces lignes rouges que les Britanniques veulent imposer, il reste un accord de libre-échange. Et donc ça veut dire aussi des contrôles, ça veut dire des contraintes, ça veut dire un contrôle des standards, des normes de sécurité alimentaire, de sécurité des produits, des règles d'origine. Et donc pour toutes les entreprises, des difficultés supplémentaires. Ça, je ne peux pas en calculer le coût, mais il est très important, en particulier pour les entreprises britanniques. Et puis il y a le coût de ce que les Britanniques doivent payer en partant, de ce qu'ils doivent, ni plus ni moins, on solde des comptes quand on se sépare. C'est le cas dans toute séparation ordonnée. Ce prix-là, je ne vais pas le chiffrer, je ne l'ai jamais fait. Je dis simplement que les Britanniques ont accepté de payer tout ce qu'ils doivent, tout ce à quoi ils se sont engagés depuis qu'ils sont membres de l'Union européenne à l'égard de leurs partenaires. Je rappelle aussi que tout ce que je viens de vous dire, sécurité des citoyens, sécurité des bénéficiaires des politiques européennes, tout ça ne sera sûr qu'au moment où le traité que je négocie au nom de l'Union européenne sera ratifié, c'est-à-dire par le Parlement européen, par le Conseil des ministres et par la partie britannique aussi.
Madame May, Monsieur Barnier, Madame May fait un périple en ce moment donc au Royaume-Uni pour essayer de rassurer. Elle dit qu'elle est, convaincue de l'avenir radieux de son pays, et elle dit que le pays a repris le contrôle de ses lois, de ses frontières, de son argent. et il saisit les opportunités offertes par le Brexit. Le Royaume-Uni prospérera en tant que pays fort et uni qui bénéficie à tout le monde, peu importe, ajoute-t-elle, votre vote pour ou contre le Brexit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
On connaît bien les raisons pour lesquelles une majorité de citoyens britanniques ont voté le Brexit. Encore une fois, nous sommes nombreux à regretter ce vote. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure du combat juste que mène parmi d'autres Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle. On a été très ému et très touché par ces attentats terroristes récents et c'est une menace permanente. Il y a le changement climatique, la négociation dans le commerce international avec d'immenses pays comme les États-Unis ou la Chine ou l'Inde, la maîtrise de la spéculation financière. Voilà la question que je peux poser en écho à ce que vous venez de rappeler des propos de Theresa May, c'est comment, par rapport à tous ces enjeux que je viens de citer, il y en a d'autres, on se fait respecter, comment on reste maître de son destin, comment on évite d'être sous influence ou sous-traitant. Moi, je pense que c'est en étant dans l'Union européenne et en développant cette capacité de négociation commerciale, d'indépendance, d'autonomie. Et voilà ce que je pense. Et les Britanniques ont fait d'autres choix, pas tous d'ailleurs. Nous respectons ce choix, nous le mettons en œuvre et pour autant l'Union européenne va continuer à se développer parce que c'est en étant ensemble, me semble-t-il, que dans le monde d'aujourd'hui, on peut être respecté.
Michel Barnier, vous parliez de technologie notamment. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à l'appel du président de l'exécutif d'Airbus qui exhorte l'Union européenne et le Royaume-Uni à trouver d'urgence une solution pour garantir la poursuite de la coopération dans le GPS européen Galileo entre donc l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit?
Je parlais du respect que nous voulons construire et consolider dans le monde en tant qu'Européens, ce qui ne nous empêche pas naturellement d'être patriotes et passionnément français ou allemands ou italiens. Galileo, c'est une démonstration de cette volonté d'autonomie, d'indépendance des Européens. C'est le programme spatial le plus avancé de l'Union européenne. Et parmi tous les signaux qui sont émis par ce programme, notamment pour la géolocalisation, il y a un signal hautement sécurisé qui s'appelle le PRS, qui est réalisé, qui est développé dans un contexte de défense et de sécurité pour les Européens. Et là se pose la question de l'accès au développement de ce signal hautement sécurisé, des algorithmes, des clés de ce signal pour un pays tiers. On est devant la conséquence, une des conséquences mécaniques du Brexit et du retrait britannique de l'Union européenne. Un pays tiers ne peut pas avoir accès au développement, ni ses entreprises d'ailleurs, faute de quoi nous mettrions en cause l'intégrité de ces systèmes. C'est une autre question que celle pour un pays tiers, le Royaume-Uni, dans un an, les États-Unis aujourd'hui ou la Norvège, d'avoir accès en tant qu'utilisateur à ce signal. Ça, c'est possible à travers un accord particulier que nous trouverons avec le Royaume-Uni le moment venu. Vous voyez, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, il l'a souhaité. Il quitte dans un an 750 accords internationaux que nous avons signés en tant qu'Européens avec des pays tiers ou des partenaires tiers. Et c'est une des conséquences mécaniques de ce retrait auquel il doit faire face parce que c'est lui qui a pris cette décision. C'est donc le Royaume-Uni qui doit assumer les conséquences de ses propres décisions.
Et dans le contexte actuel, Michel Barnier, donc de négociation du Brexit, comment voyez-vous le mouvement diplomatique européen, 16 États membres, mais aussi les États-Unis, le Canada et l'Ukraine, qui ont annoncé l'expulsion de plus d'une centaine de diplomates russes de leur territoire en réaction à l'affaire Skripal. C'est une victoire diplomatique pour Londres?
Mais c'est simplement le fait et la preuve que nous sommes solidaires en tant qu'Européens et que nous sommes alliés dans le cadre de l'Alliance Atlantique notamment. Et donc cette solidarité, cette alliance s'exprime dans des circonstances graves comme celle que vous venez de rappeler. Ça prouve une chose dont je vais devoir m'occuper à partir de maintenant puisque les dirigeants européens, le Conseil européen la semaine dernière m'en a donné le mandat après que j'ai rendu compte de l'état de la négociation. Nous allons commencer la discussion avec les Britanniques sur ce qui me paraît beaucoup plus important et même plus intéressant que le divorce ou que la séparation ordonnée à laquelle je travaille, qui est l'organisation de notre partenariat futur. On n'a pas que du commerce à faire avec les Britanniques. On doit avoir une coopération en matière d'aviation, on doit avoir une coopération en matière de recherche, aussi pour les universités européennes, pour Erasmus, et puis évidemment en matière de défense et de sécurité. Moi, je crois qu'il faudra bâtir un partenariat stratégique avec le Royaume-Uni, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, pour toutes les questions de défense et de sécurité.
Merci beaucoup. Merci Michel Barnier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous,
Sophie
Delpont.
Merci
à nos amis de France Bleu, pays de Savoie. Un tout petit mot pour vous dire que l'homme qui avait foncé avec sa voiture ce matin sur des militaires près de Grenoble, près de la caserne de Varsalières et Risset, a été interpellé. C'est ce que nous apprend donc une dépêche de l'agence France Presse à l'instant. Pour la météo, un temps qui se calme, un ciel qui se dégage. Cet après-midi, quelques giboulets sur le nord-ouest. Température 9 à 19 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h. Aurélie Kiffer.